Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard.
19h21, les grandes voix sont de retour après deux semaines de Roland-Garros, de retour et en pleine forme. Bonsoir Michel Cotard.
Bonsoir.
Ça va Michel?
Ça va.
Charles Villeneuve est avec nous aussi. Bonsoir Charles.
Mais évidemment que ça va.
Tout ça va toujours Charles.
C'est vrai.
Ça va toujours. Et Gérard, comment
ça
va-t-il?
Ça va très bien.
Gérard Carrérou avec nous également. On va parler de la Coupe du Monde féminine de football dans quelques instants avec les grandes voix, figurez-vous. Un peu de sport aussi, ça fait du bien de temps en temps. Il y a un peu plus que le sport. Hein. C'est une question de société aussi. Vous venez d'écouter Brigitte Henriques, l'interview de Sonia Mabrouk. Mais d'abord, Benjamin Muller qui est avec nous. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir Mathieu, bonsoir Ambline, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Alors Benjamin, comme chaque vendredi, on fait avec vous le bilan de la semaine passée dans ce grand journal du soir, c'est parti.
Avec de nombreux appels au 39-21 toute la semaine, dont celui de Loïc, c'était hier à propos du décès des trois sauveteurs de la SNSM. Il se trouve que quelques jours avant le drame, Loïc était lui-même sur un bateau qui a chaviré. Loïc a été sauvé par deux des trois bénévoles qui viennent de mourir. Évidemment, son émotion était très grande.
On a attendu 3 heures dans l'eau et là, la SNSM est arrivée. Et ils nous ont embarqués très, 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 très chaleureusement. Sincèrement, on se croyait perdus. Et j'ai entièrement sympathie pour Yann, parce que c'est lui qui nous a ramenés. Je pense que Dimitri était là aussi présent. Merci beaucoup, parce qu'on pensait bien y rester.
Voilà, témoignage très fort de Loïc que l'on remercie. Encore autre sujet, autre appel marquant, celui de Florian. C'était mardi à propos de la grève dans les urgences. Florian est pompier de Paris. Il raconte comment ça se passe quand il dépose un patient à l'hôpital.
On pose une victime, je vais dire, à midi. On arrive 3 heures après pour apporter d'autres encore patients et la personne qu'on a apportée à midi nous dit qu'elle n'a pas encore été prise en charge. C'est pas parce que le personnel ne veut pas, c'est juste qu'ils sont complètement débordés.
Voilà donc 3 heures d'attente, ok, jusque-là tout va bien. C'est la suite qui est hallucinante.
On a encore d'autres cas où les gens appellent le 18 pour nous dire que ça fait 5 heures qu'ils attendent dans une salle d'attente et ils veulent qu'on vienne les chercher dans la salle d'attente des urgences pour les emmener dans un autre hôpital.
Enfin, témoignage dingue de patients qui appellent les pompiers depuis l'hôpital. C'est à peine croyable. La situation à l'hôpital, Mathieu, vous en avez beaucoup parlé cette semaine.
À la une, évidemment, le conflit dans le secteur hospitalier, la mobilisation des urgences en particulier.
Alors, qu'on soit bien clair, Mathieu, je ne me moque pas. Je compatis, c'est tout.
On va parler de la crise des urgences, évidemment.
Vous avez eu du mal.
Et encore, je me suis arrêté à deux. Ça bloque.
Urgence, c'est dur. On essaye. Allez, les
urgences.
Bien, bravo. Vous regardez pas Georges Claudet pourtant. Heureusement, quand arrive ce genre de petit moment un peu gênant, tout va bien, tranquille, on peut compter sur Omblin pour reprendre la main.
Il est 19h.
Eh oui, Omblin.
Bon début de soirée sur Europe 1.
Le fameux bon début de soirée.
C'était un petit côté accent du sud.
J'aurais dit accent de l'est, moi, un peu allemand. Bon début de soirée.
Bon début de soirée.
Bref, c'est l'heure de l'apéro. Voilà. Alors, de quoi de beau a-t-on parlé également cette semaine? Ah bah oui, de politique, bien sûr.
On va parler d'Edouard Philippe, de ce discours de politique générale. Est-ce qu'il vous a convaincu? 39-21, vous le savez. Il n'a rien dit sur les trottinettes.
Ouais, ça, la trottinette et Edouard Philippe, quel est le lien? On ne sait pas, mais on sent que ce sujet de la trottinette, ça vous est monté à la tête.
Je me projette en démarrant dans ce métier, si je pensais qu'un jour il faudrait parler de la législation sur les trottinettes, j'aurais peut-être fait autre chose.
Et oui, je sais ce que vous auriez fait si vous n'étiez pas devenu journaliste, vous seriez critique gastronomique. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a parlé de bouffe?
Europe 1. Pour le goûter, on vous propose des fraises avec des bourgeons de sapin, une petite douceur citron, algues, des cerises, olives, vinaigrette.
Oui. Alors, dit comme ça, ça peut paraître bizarre, mais ce sont là quelques-unes des créations de Jessica Préalpato.
Ouais. De Jessica... Hein, urgence, il y arrive bien, mais Jessica Préalpato, il n'y a plus personne.
De Jessica Préalpato, qui est française et qui vient d'être élue meilleure pâtissière du monde. Évidemment, Mathieu, c'est sûr, c'est obligatoire, vous l'avez interviewé.
J'aimerais savoir dans quel contexte en pâtisserie vous utilisez le barbecue. Ça, c'est une question perso.
Il faudrait que je compte, hein, sérieux, Blinon, combien de fois par jour il parle de son barbecue,
c'est vrai.
Mais bon, c'est quand même une bonne question. On peut faire au barbecue un dessert 5 étoiles, donc on écoute.
Ben là, par exemple, en ce moment, on est en train de faire des essais pour un dessert autour de la pêche et de l'abricot. Et du coup, on met les pêches et les abricots à cuire directement dans le barbecue. Et ça apporte un goût fumé qui est juste incroyable.
Cette obsession du barbecue qui ne vous a pas quitté de la semaine, cela dit, ça donne envie. Obsession, y compris lors de votre interview de PPDA hier. On sent que vous étiez en ambiance. C'est dimanche après-midi, ça va être la fête. Vous l'interviewez sur sa carrière du OJT.
Patrick Poivre d'Arvor, est-ce que oui ou non, un jour, vous l'avez tenté en tongs?
Enfin, non, pas vraiment.
Non, pas vraiment. Et vous, la radio en slip, Mathieu, vous l'avez déjà fait?
Pas encore. J'ai ce mythe du présentateur du 20h qui serait en jogging.
Ouais,
en
mais
dessous,
pas lui, visiblement.
Non, pas PPDA, que je remercie d'ailleurs parce qu'il a été très gentil, très sympa de répondre et de partager cette histoire avec nous hier soir. Merci Benjamin Muller.
Allez, bon week-end.
Europe 1.
Le discours de politique générale d'Edouard Philippe, mais d'abord le succès de ce démarrage de la Coupe du Monde féminine de football. Le débat avec les grandes voix ce soir, Michel Cotta, Gérard Carrero et Charles Villeneuve. A tout de suite sur Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et avec, comme tous les vendredis, les grandes voix d'Europe 1, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrero.
Comment ça va les grandes voix? Toujours bien?
Très bien.
On va parler de football féminin. Alors... Je fais attention avec les mots, parce que c'est pas du football féminin, c'est du foot. Mmh. On oublie, nous, tous les mercredis soirs, vous jouez au foot.
Oui, on joue au foot, oui.
Vous jouez pas au foot féminin.
Non, on joue au foot tout court.
les buts font la même taille, les règles sont les mêmes. Mais c'est la Coupe du Monde féminine de football. Est-ce que vous partagez l'enthousiasme des Français, Michel Cotta?
Moi, tout à fait. Tout à fait pour plusieurs raisons, mais je vais vous dire les premières avant celle qui me paraît la plus importante. La première, c'est que c'est très beau, c'est très joli. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de grâce sur un terrain de foot. C'est la première fois que je vois ça. Je les trouve beaucoup moins agressives entre elles que les hommes. J'étais particulièrement émue, par exemple, par le pénalty marqué où celle qu'il avait marquée est allée immédiatement féliciter
Le Sommer.
Malheureusement, celle qui avait poussé le ballon, ballon dans les buts.
Wendy Renard.
Ça, franchement, vous ne voyez pas un homme. Vous voyez pas, ça m'étonnerait que dans un match entre hommes, ça se passe aussi bien. Bon, bref. Mais deuxièmement, c'est que je crois que le plus important pour moi, c'est que ça change. Mais c'est une révolution, ce qu'on vit. C'est une révolution, ce truc de football. D'abord, parce qu'il y a 10 millions et demi de téléspectateurs, alors que même la fédération en attendait 5-6 millions maximum. Et ensuite, parce que les femmes du monde entier voient que les femmes peuvent aussi jouer au football. Et c'est formidable de voir la tête des enfants, la tête des plus vieux, la tête des hommes, la tête des femmes... En applaudissant, pour moi, je crois que quand on voit ces images en Arabie Saoudite, on doit se dire quand même que c'est important pour la cause des femmes.
Alors, je suis ravi que vous le disiez, Michel Cotta, parce que quand j'ai rencontré Noël Le Graët la semaine dernière, je lui posais des questions sur le regard en disant, mais vous savez, en France, je parlais de la France, on a encore beaucoup de gens qui estiment que ce n'est pas la place des filles sur les terrains de foot, etc. Et lui m'a répondu sur l'international, l'importance de ce genre d'événement pour la cause des femmes dans de nombreux pays, évidemment. Charles ?
Non, mais c'est une révolution. Je dirais que c'est une évolution... inattendu sur le plan du nombre des téléspectateurs qui ont regardé et l'ouverture et le match où la France s'est qualifiée, puisqu'elle est qualifiée maintenant d'ores et déjà contre la Norvège. 10 millions chaque fois de téléspectateurs, non seulement 9 millions et quelques sur TF1, mais aussi 1 million sur Canal+, qui diffuse tous les matchs de la Coupe du Monde et qui s'attendait à 100 000, 150 000. Bon. Mais il y a une évolution en ce sens où Michel dit révolution, c'est vrai que ça dépasse le football et en cela c'est une révolution. Oui. Mais il y a une évolution parce que déjà à la dernière Coupe du Monde masculine, on a pu voir le public féminin qui a été amené par cette explosion du football, par évidemment les victoires de l'équipe de France, mais dans les fan zones et dans la rue ensuite après les matchs, il y avait un nombre de jeunes femmes et de jeunes filles considérables qui fêtaient l'événement. Et c'était là, une évolution nouvelle. Et puis, il y a le succès de nos équipes féminines de basket et de handball aussi, qui a montré un caractère de gagneuse, de gens qui avaient une force mentale et qui a popularisé, qui ont aidé à populariser le sport féminin. Et puis, là où je rejoins, je crois que Michel et sans doute peut-être Gérard, l'authenticité et la courtoisie. Des femmes footballeurs. Et c'est vrai, parce qu'elles ne se lancent pas d'abord dans des vociférations, des insultes et des rouspétances à l'égard de l'arbitre quand il prend une décision qu'il aurait défavorable. Et puis, il n'y a pas des roulades interminables façon Neymar. Quoi.
Par exemple, le pénalty qui a été accordé là. Franchement, sur une équipe d'hommes, ça aurait fait des problèmes.
Oui,
ça aurait fait des problèmes.
Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est... Et le fait qu'on n'est pas dans le gigantisme du sport business. Voilà. Ça, c'est important aussi. Ça projette une image beaucoup plus douce, beaucoup plus, si vous voulez, captive pour non seulement l'œil, parce que je trouve qu'elle joue bien, Et bon, je ne suis pas un amateur de foot féminin depuis hier ou depuis cette Coupe du Monde. J'ai regardé beaucoup de matchs. C'est les Américaines qui m'ont fait découvrir, d'ailleurs, la qualité du football pratiqué par les femmes.
C'est la fin du freak ball, si on peut dire.
Du freak ball. Gérard Carrérou, pas forcément un grand mordu de foot d'ordinaire.
Alors, écoutez, je ne me suis jamais présenté comme une autorité, ni pontificale, ni autre, en matière de football. Non. Moi, ce qui m'intéresse, je vais vous dire la vérité vraie. Ce qui m'intéresse.
Je suis pas d'accord, je pense que tu as quand même.
Je veux dire, je ne suis pas infaillible en matière de football. D'ailleurs, dans les autres domaines, dans les autres domaines non plus. Non, mais ce qui m'intéresse, moi, dans cette affaire, je dirais, c'est le phénomène sociétal plus que les matchs. Alors, vous direz, les matchs, bah, c'est essentiel, les matchs. Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'état extraordinaire.
Sans les matchs, il n'y a pas de phénomène sociétal.
C'est un phénomène de société fabuleux. Parce que c'est quelque chose qui, je crois, quand on fera l'histoire au 20e et 21e siècle de la lutte des femmes vers l'égalité dans tous les domaines, on notera un certain nombre de jalons. Il y aura eu effectivement le droit de vote en 1946, il y aura eu le droit à l'IVG avec Simone Veil dans les années 70, et il y aura tout d'un coup le droit à être comme les hommes.
Ça existait déjà en Amérique,
oui,
la preuve, c'est que les Américaines sont favorites.
Chez nous, c'était un truc pour les hommes. Et les femmes, on leur disait, en plus, reste à la maison, sors avec tes copines, etc. Mais nous, on regarde le match.
Alors, c'est une question qui est relative au football, vraiment. Il y a plein de sports où de nombreuses femmes, des Françaises, mais pas seulement, s'illustrent. Depuis des années, depuis des décennies, ça ne pose aucun souci. Pourquoi est-ce que dans le football, il a fallu attendre autant? C'était vraiment un truc de bonhomme, quoi.
Il y a d'abord la dimension du stade. La preuve, c'est que l'interlocutrice qui était Sonia Rapoport tout à l'heure me disait qu'on avait réfléchi, qu'à un certain moment, ils avaient réfléchi à l'idée qu'un stade, pour la longueur du stade pour des femmes, ce soit particulièrement difficile. Bon, comme on voit, ça n'est pas particulièrement difficile. Et puis, si j'ose dire, c'est le coup de pied, quoi. Le coup de pied, vous voyez, c'est masculin. On voit très peu de femmes donner des coups de pied. Et je suis persuadée que par rapport au handball, au basket, où on dit ça élève les silhouettes, etc., le football était resté, oui, un sport d'homme. En France.
Moi, je trouve surtout, là où c'est séduisant, c'est qu'elles jouent bien. C'est agréable à regarder. Elles jouent bien, elles ont de la technique, elles ont de la puissance, elles ont de la vitesse, qui sont les trois facteurs très importants pour un sport
collectif.
C'est
la puissance, moi, qui m'a le plus étonné.
Et surtout, leur authenticité, leur courtoisie, leur collectif. Le geste de Le Sommer, après avoir réussi son pénalty réparateur du raté de Wendy Renard, qui est avec son 1m87, qui est une pilier, qui est une guerrière, on dirait une indienne Guarani qui veut à tout prix arracher le morceau. Non, mais c'était... Je suis d'accord avec Michel là-dessus. C'était formidable de tendresse et de solidarité.
Oui, alors moi je partage ça. Elles sont sympathiques et authentiques. C'est ce qui fait la différence avec le football professionnel des hommes, où effectivement tu l'as dit, mais on voit tout ce cinéma incroyable. Les types qui font semblant d'être, on a l'impression qu'ils vont mourir. Il y en a marre un peu de ça. Et elles ne sont pas comme ça. Et je pense que
enfin pas encore.
Alors voilà. Il y a je finirai par deux questions. Une, est-ce qu'il n'y aura pas une perversion lorsqu'effectivement, il y aura le nombre, il y aura les vedettes, il y aura
les salaires et les droits,
la starification,
qui vont doubler d'ores et déjà.
Lorsque l'argent entrera dans le football féminin, pour l'instant, il n'y est pas.
C'est
mais
vrai.
Quand il va y entrer,
c'est
est-ce
vrai.
Qu'on gardera la même pureté, le même,
oui, c'est
le même angélisme ou pas?
Non, mais c'est une question sans réponse pour l'instant.
Félicitons-nous en tout cas de ce qu'on a vu.
De ce qu'on a vu, et puis encore une fois, 10 millions de téléspectateurs pour le premier match.
Et avec le deuxième
avec l'effet journal de 20h au Parc des Princes, bon, cérémonie d'ouverture, Le deuxième, 10 millions encore.
Oui.
Rebelote et TF1
formidable.
Qui a revu ses tarifs publicitaires à la hausse.
Pas
non,
fou,
qu'il est trip.
Pas folle la guêpe.
19h38. Europe 1. Et pour revenir au freakball, comme disait Michel Cotta, le football masculin en club, cette information, Leonardo revient au PSG. C'est officiel, on en parlait un peu plus tôt dans votre grand journal du soir. Il est 19h38.
Qui est un Brésilien d'origine, mais qui est italien.
C'est vrai?
Qui a l'intentionnalité italienne aussi.
Leonardo?
Oui.
Aussi
oui.
Vous me l'apprenez.
Oui, ben
bon,
voilà.
Le supporter du PSG.
On vous donne des
content.
Infos de temps en temps.
19h38 sur Europe 1, les grandes voix, on revient dans quelques instants.
Vous écoutez Mathieu Béliard et les grandes voix d'Europe 1, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
On quitte la Coupe du Monde féminine de football pour revenir sur la politique française. Deux discours de politique générale du Premier ministre cette semaine. D'abord le Premier ministre. Avant de parler du fond, le couple exécutif, Macron-Philippe, c'est ce discours de politique générale où il se réaffirme victorieux, finalement, après les européennes, Édouard Philippe, Michel Cotta.
Écoutez, il a pris une... Vous rappelez tout ce qu'on disait, enfin, il y a 6 mois, les gilets jaunes...
Il devait partir, papa, là, normalement, après
partir,
les européennes.
C'était carrément acté par les journalistes, en tout cas, enfin, par nos confrères. Eh bien, là, on ne peut plus parler de la même manière. Il a récupéré... la donne, il apparaît comme... Tu vois, on disait, est-ce qu'il existe, le Premier ministre ? Oui, eh ben oui, il existe, il a existé. On verra après sur la forme, hein, sur les mesures. Mais enfin, là, il a existé, il a affronté assez bien et l'Assemblée nationale et le Sénat, avec des réussites. Au Sénat, il y a eu beaucoup d'abstentions, ce qui veut dire quand même que la droite n'a pas voté contre. Donc, il voulait ça au Sénat. C'est pour ça qu'il voulait s'engager lui-même auprès du Sénat. Il a réussi. Et puis, c'est sûrement quelqu'un qui... On se dit, par exemple, je ne suis pas sûr qu'il ira à la mairie de Paris. Vous vous rappelez que depuis aussi 6 mois, on dit « Ah, mais il ira à Paris. » Il a fait un discours le 12 juin et vraisemblablement, c'est lui qui sera chargé de porter les réformes de ce discours jusqu'au bout.
Donc l'acte 2 du quinquennat, c'est pour Édouard Philippe.
L'acte 2, oui, on verra si
un bis, on verra ce qu'on en dit aussi, Gérard Carrérou.
Oui, moi, ce qui me frappe, c'est l'extraordinaire, mais c'est exactement d'ailleurs ce que tu dis à ta manière, c'est l'extraordinaire retour et rétablissement d'un pouvoir sous la Ve République qui était le dos au mur et pour partie de ce pouvoir, c'est-à-dire le Premier ministre, moribond en décembre dernier, il y a seulement 6 mois. Il y a 6 mois, on disait... Bon, Macron a le dos au mur, il va être obligé de soit de faire des élections, soit de changer de Premier ministre, etc. Philippe était condamné, etc. Là, on a vu un Premier ministre, effectivement, qui a fait je dirais pas qu'il a fait les discours de politique générale les plus extraordinaires que j'ai entendus sur les 50 dernières années. Il y en a eu d'autres meilleurs, sans aucun doute.
Et d'autres pires, hein,
beaucoup. Mais il y en a eu d'autres... disons que c'est un... Mais c'est pas tellement le discours en lui-même, les mots. C'est vraiment l'attitude qu'il a eue. Il a été effectivement un homme serein, un homme qui donne l'impression d'être cohérent, de ne pas avoir véritablement dévié de sa ligne et qui est prêt, effectivement. Alors, bon, après, quand on rentre dans le détail, effectivement, on peut dire qu'il y a beaucoup d'apparence.
Ouais.
Hein, le virage écologique dont on a parlé,
ouais, qui se limite... dans le détail, allons-y.
Qui se limite alors aux
boîtes...
Je suis d'accord avec ce que disent
mes deux camarades et confrères, et néanmoins amis, c'est que c'est un discours, je suis d'accord, qui prend acte que les européennes ont été moins mauvaises que craint. D'accord. Mais sur le registre de l'art oratoire, c'est vrai qu'il n'est pas le jumeau de l'avocat à la mode du Pont-Moretti, ça c'est vrai. Bon, mais bon... pas extraordinaire de toute façon, ni magistral sur le fond, ni extraordinaire sur la forme. Parce que le reste, c'est quoi ? Le changement, le nouveau souffle, sincèrement, le ripollinage de tout ce qui peut être politique en vert, parce que c'est la mode, on surfe sur la mode. Il n'est pas dit d'ailleurs qu'on puisse récupérer, parce que c'est aussi une forme de récup, l'électorat écolo, qui ne semble pas très désireux d'être récupéré non plus. Et puis ce ne sont que les européennes. Il faut attendre, tout le monde s'excite là-dessus. Les européennes, et Michel Cotta et Gérard Carrérou, qui sont des docteurs S-politiques... Non, mais c'est vrai. Ils vous rappelleront que chaque fois qu'ils ont émergé aux européennes, ils n'ont jamais concrétisé
ils
derrière.
Ils n'ont jamais confirmé derrière.
Côte Bendit étant le plus bel exemple de ça.
Exactement. Donc, il faut quand même relativiser sur le plan du contenu.
Michel, ça...
on est d'accord sur le plan du contenu, notamment, et même sur le plan des virages un peu d'Edouard Philippe, parce que quand on l'entend sur la PMA... dont on sait qu'il était vraiment farouchement contre, et maintenant il a... Bon, ça c'est vrai, ça fait partie du jeu politique, mais enfin, c'est vrai que c'est important. Mais enfin, moi je vois surtout l'aspect politique, on dit on s'emballe sur ces européennes, l'aspect politique quand même, il reste que la droite, ils sont arrivés, Macron et lui, en alternance, et chacun à leur manière, à mettre la droite classique, la droite républicaine, au pied du mur, et dans l'obligation... ou en se croyant dans l'obligation de choisir. Et ça, quand même, c'est un fait politique capital.
Oui, ils ont fait de... En fait, on voit à travers le discours de Philippe, aussi bien d'ailleurs à l'Assemblée qu'au Sénat, on voit effectivement, on a l'impression maintenant, il y a un Premier ministre de droite avec un président de centre-droit. Donc on a effectivement un attelage
de
pouvoir qui est à droite, qui est au centre-droit.
Oui.
Ça peut poser des problèmes d'ailleurs, parce que, et ça va peut-être en poser. En même temps, il y a une sucette pour la gauche, voilà. Si j'ose dire, la sucette pour la gauche, c'est la PMA.
Bon,
on va en parler dans un instant, justement. 19h46. Parce que ça, ce sera un dossier sensible. Deux points à évoquer encore sur ces discours de politique générale, la PMA et les retraites, la réforme des retraites à venir avec les grandes voix. Restez bien sur Europe 1, on revient dans un instant.
Mathieu Béliard sur Europe 1, accompagné des grandes voix, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrère.
Toujours autour de ces discours de politique générale d'Edouard Philippe à l'Assemblée nationale puis au Sénat le lendemain. Parlons de la réforme des retraites à venir. Faudra-t-il travailler plus longtemps? On a inventé l'âge d'équilibre,
oui,
Gérard.
Oui, c'est évidemment une énorme hypocrisie. C'est une façon de ne pas dire... La vérité simple. La vérité simple, c'est il faut travailler. Ça, ils le disent. Il faudra travailler davantage, plus longtemps. La durée est plus longtemps. Mais au lieu de dire, effectivement, on passera à 64 ans, voire à 65 ans, et d'ailleurs, on peut le justifier comme tous les pays voisins européens, etc. Au lieu de dire ça, nous, on a inventé, parce qu'on est toujours plus malin, on avait d'abord inventé l'âge pivot. En disant l'âge pivot, maintenant on dit l'âge d'équilibre. Ça veut dire, on dit écoutez, ben maintenant, ou bien vous partirez à 62 ans, vous aurez une retraite amputée de 20% ou de 15%.
Ce n'est pas dit.
Ah non, ne pas le dire comme ça tout de suite.
Ou bien alors, vous voudrez avoir votre retraite pleine et entière, à laquelle vous aspirez, que vous méritez, et dans ce cas-là, il faudra attendre 2 ans de plus. C'est ça exactement. Ça n'a pas été dit comme ça, mais c'est vite. En tout cas, ça a été reçu comme ça. Et crois-moi, les Saint-Michel, les syndicats,
sûr.
Ils l'ont.
Naturellement.
Ils l'ont reçu
non, mais c'est vrai qu'on voit bien que sur les retraites, tous les régimes, ils vont par petits pas et encore petits pas vraiment compter. Bon, 62, 63 ans, moi je ne sais pas si on ratiboise les retraites à 62 ans ou s'il y a des incitations pour prendre une retraite à 64 ans. Ça change sans doute un peu. C'est vrai que tout le monde va protester, mais que tout le monde sait que c'est inévitable et qu'on est obligé d'en passer par là. Alors il y aura peut-être on truque l'âge de la retraite, on nous truque ceci. Bon, on est obligé d'y passer. Alors on y passera par petits morceaux peut-être, mais on y passera.
Oui.
Il y a eu
trois messages dans ce. On a parlé du message sur les retraites, du message sur les Verts aussi. Il manque évidemment la pression fiscale. Et pour ceux qui sont étranglés, notamment les Gilets jaunes, etc., la diminution de la pression fiscale.
C'était le troisième message. 27 milliards d'euros de baisse sur le quinquennat qu'il faudra raconter
d'ailleurs. Et le quatrième, c'est comment on finance.
Le quatrième point qui n'a pas été évoqué, c'est comment on paye.
Vous regardez ça pour les bonus du DVD.
Et c'est là que les inconnues sont encore très nombreuses. Que comment on va financer tout ça. Et là, finalement, il n'y a aucune réalité dans le discours du financement. Aucune.
On prie Darmanin
de
trouver.
Et même sur les Verts, ça reste encore à valider. Parce que d'accord, on va planter des éoliennes au large, etc. Ça ne fabrique tellement peu d'électricité qu'elle fabrique surtout du vent. Ça, c'est vrai. Elle tourne avec le vent.
C'est un petit coup d'installation aussi,
vent.
On lance vraiment des projets.
Oui, d'accord, mais ça fera travailler les petites et moyennes entreprises
sur l'écologie, on est en pleine schizophrénie. C'est-à-dire qu'à la fois, on voudrait que tout soit fait pour que tout soit vert, etc., etc. Puis à la fois, on voit bien que la publicité, c'est quoi? Les bagnoles, les avions, on ne va pas les arrêter. Alors, il y a bien sûr des gens maintenant qui disent il ne faut plus faire d'enfants. Parce que comme ça, la planète sauvera la planète. Mais s'il faut tuer les hommes pour sauver la planète, je vois pas où on va. Donc la schizophrénie est quand même totale.
Il y a quand même une innovation importante.
Les boîtes en plastique, quand même.
Non, c'est la police alimentaire. Ouais. La police alimentaire, pour évidemment les paniques alimentaires, les paniques, on ne sait jamais. Il y aura une police qui ira vérifier si ce que tu manges, si la malbouffe finalement occupe ton assiette. C'est quand même... Non, moi je pense que la réalité, si tu veux, de l'engagement écologique, reste vraiment à valider. Et je pense que la route sera très longue.
Et si on verra Gérard. Si Jadot, par exemple... Jadot, il est maître d'une certaine manière, il est maître des horloges là, dans ce domaine. Il peut dire, bon, ben, moi je suis convaincu, et dans ce cas-là, on peut imaginer que dans un deuxième tour de présidentiel, les écologistes voteront pour le président sortant. Ou alors, il dit, écoutez, on se moque de nous, cette transition écologique, c'est du vent, quoi, comme tu viens de le dire, ou c'est pas grand-chose. Et dans ce cas-là, il faudra compter, et on aura un espace politique, peut-être que la gauche et les écolos pourront effectivement recréer quelque chose.
Sauf que l'espace politique des Verts est quand même à géométrie variable.
Oui, mais je crois qu'il est moins, il le sera moins cette fois-ci, parce que on sent bien quand même que la préoccupation écologique a pénétré profondément la société.
Oui, voilà. Mais je trouve de sa part, je suis pas sûr que c'était très habile de dire ce qu'il a dit dès le début, c'est-à-dire qu'il n'était pas là pour recycler les vieux partis. Il aurait rien dit. Il aurait fait ce qu'il voulait, mais je ne vois pas pourquoi une déclaration de guerre d'emblée au parti de gauche qui ne demandait sans doute qu'à exister, y compris à exister avec lui. Je trouve que c'est une erreur politique inutile.
Ce qui est quand
inutile.
Même nécessaire aussi, ne serait-ce que par le jeu habituel classique de la démocratie, c'est nécessaire. Oui. Ça m'étonnerait que la gauche disparaisse comme ça, ce n'est pas possible. Elle va se recycler elle aussi.
Et la droite aussi, quelque part. Et quand on voit Marion Maréchal aujourd'hui, c'est pas par hasard si elle est là maintenant. Elle est là aujourd'hui, elle dit l'union des
Sauf que vous avez remarqué que Thierry Mariani est chargé de le faire par Marine Le Pen tout à l'heure. Hein, c'est drôle, tout à l'heure. C'est-à-dire que Marine Le Pen a quand même essayé de couper l'herbe sous le pied.
Je crois pas beaucoup à l'union des droites, j'y crois pas beaucoup.
Ce sera notre débat, mes amis.
Parce que un parti qui a fait 8 points et l'autre qui a fait 24 points, c'est-à-dire
Charles,
3 fois les
8
plus,
points,
et en plus,
les
8 la ligne
points,
de partage des autres dans, sur la droite,
les 8
est quand même
points
très
du Parti Républicain, honnêtement, convaincu qu'au municipal, il retrouvera une partie de ça.
Je vous coupe, les grands mots, on est complètement au bout.
Je
suis d'accord.
Qui est passionné de fond. Qui est passionnant et qui mériterait pour le coup les vraies temps d'antenne de ce débat-là. Et Dieu sait si les auditeurs ont réagi sur ces questions de la droite en pleine recomposition. Merci mes chers grands voix. Gérard Carrérou, je vous en prie, je vous écouterai. Gérard Carrérou, merci beaucoup. Michel Cotta, bon week-end à vous. Et Charles Villeneuve aussi. Europe 1.